accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Difficile d'ignorer que dans 48 heures aura lieu le match d'ouverture du Mondial de football 2018, avec des rencontres qui se dérouleront dans différentes villes russes. Notre correspondant Daniel Valo a visité deux d'entre elles, Samara sur la Volga, qui accueillera quatre matchs de poule, un huitième de finale et un quart de finale. Samara, dont le stade a été inauguré au tout dernier moment. Les travaux ont pris énormément de retard et la FIFA a même cru qu'il ne serait pas prêt à temps. Vous allez l'entendre. Mais tout d'abord, nous partons pour Saransk, à 500 km au sud-est de Moscou. 300 000 habitants, son club de 3e division. En fait, la plus petite ville de ce mondial. Alors, pourquoi Saransk a-t-elle été choisie? Sera-t-elle à la hauteur du rendez-vous malgré sa petite taille? Les réponses de Daniel Valo.
C'est l'un des derniers matchs de la saison pour le FC Saransk. Un match de 3e division qui se joue dans un stade flambant neuf construit spécialement pour le mondial. Dans les tribunes, Sacha est ravi, mais ce supporter se demande tout de même si sa ville et son club avaient vraiment besoin d'un stade de 45 000 places.
C'est magnifique, c'est un stade magnifique pour Saransk. Mais bien sûr, pour notre région, ça va coûter cher. Quand on a eu le mondial, les cours du pétrole étaient très hauts, alors on ne pensait pas trop à l'argent. Mais c'est vrai que si le club n'arrive pas à monter en première division, alors un stade de cette taille, ça ne sera pas justifié.
Lorsqu'en 2012, la petite ville de Saransk est désignée pour accueillir le mondial, la nouvelle étonne tout le monde. Pourquoi avoir choisi cette ville, la 64e de Russie en nombre d'habitants? Vladimir Gridin dirige à Saransk la section locale du parti d'opposition Yablaka. Selon lui, ce sont les liens entre le gouverneur de l'époque et Vladimir Poutine qui expliqueraient cette décision. Pour cet opposant, l'un des rares à tenir tête aux autorités locales, rien ne pouvait justifier le choix de Saransk.
La population dans la région est pauvre. Ici, les gens bossent pour un simple morceau de pain. Beaucoup ne pourront même pas se payer un billet pour aller voir les matchs. Et un stade de cette taille pour quatre matchs, c'est insensé. À qui pense-t-on dans ce pays pour construire un stade aussi grand dans une ville qui n'en a pas besoin?
De leur côté, les autorités locales assurent avoir évité le piège du gigantisme. Tous les équipements financés pour le mondial seront rentabilisés, explique Marina Julina, en charge du tourisme au sein de la région de Saransk.
Nous sommes parfaitement conscients de la taille de notre ville et nous réfléchissons d'ailleurs déjà à la façon dont ces infrastructures seront installées après la Coupe du Monde. Et puis vous savez, ce n'est pas si mal d'être une petite ville pour un événement de ce type. Ici, pas de problème d'embouteillage, on peut même aller au stade à pied. En fait, c'est un sacré avantage d'être une petite ville.
Direction à présent la ville de Samara, à 350 km environ de Saransk. Comme de nombreux supporters le feront durant le mondial, c'est en train que nous rejoignons les bords de la Volga. À Samara, les préparatifs de la Coupe du Monde ont été marqués par un feuilleton à rebondissement, celui de la construction du nouveau stade. Le chantier a pris énormément de retard et la FIFA a même cru un moment que le stade ne serait pas livré à temps pour la compétition. Dans les tribunes, ce supporter du club de la ville affirme pourtant ne jamais avoir douté.
Non, je n'étais pas inquiet, j'étais sûr qu'il allait être terminé à temps. Nous, les Russes, on ne fait jamais rien sans qu'il y ait de problème. C'est toujours la même histoire. On crée des problèmes et puis on les résout.
À quelques kilomètres de là, sur les bords de la Volga, les habitants de Samara profitent d'un soleil éclatant pour admirer le fleuve. Elisaveta est une fan de football, mais au-delà de l'aspect sportif, elle estime que le mondial permettra à sa ville de se moderniser et de s'embellir.
D'abord, il y a le stade que nous attendions depuis des années, et puis il y a aussi les routes. Les routes, c'est le point faible de la Russie, et là, elles ont été réparées. Et puis, il y a plein de nouveaux bars, de nouveaux hôtels, et c'est un vrai plus pour nous.
Mais sur les bords de la Volga, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme pour la compétition. Marina et Sergueï, deux jeunes habitants de la ville, dénoncent la corruption et le manque de concertation qui ont entaché, selon eux, la préparation du mondial.
Beaucoup d'argent a été gaspillé et une grosse partie s'est retrouvée dans la poche des politiques. Je pense qu'on aurait pu construire bien plus de choses et de bien meilleure qualité.
Avec ce mondial, notre gouvernement essaie de cacher la vérité, la situation économique de notre pays. Ce n'est pas une bonne chose, car cet argent, ils auraient pu le dépenser pour la santé ou l'éducation, mais finalement, tout est dépensé pour le divertissement.
Retour dans les tribunes du stade. Loin des questions d'argent, ici c'est de football dont on parle. Pour Olga, le principal est que le stade soit prêt à accueillir la compétition. D'ailleurs, nous dit-elle, elle a déjà pris son billet pour le match qui opposera la Russie à l'Uruguay.
C'est le dernier match de la Russie et c'est le plus important, alors nous devons venir soutenir notre équipe si on veut qu'elle gagne.
Vous pensez que c'est possible? You think it's possible for Russia to win that game?
Everything is possible.
Tout est possible. En tout cas, on l'espère.
Le reportage de Daniel Valo à Samara et Saransk à retrouver en vidéo sur notre page Accent d'Europe. À Rome, il faut s'armer de courage et de patience pour prendre les transports publics. Sans exagérer, on peut dire que le service est catastrophique. Retard, vétusté des bus quand ils ne prennent carrément pas feu. Ces bus hors d'âge sont une triste vitrine d'une ville où les services publics se dégradent. L'attaque, l'entreprise qui gère les transports dans les municipalités, est plus que jamais sur la sellette. Le reportage à Rome d'Éric Senanc.
Vous voyez ce marbre fendu? Il remonte à 1936. Les vitrines ici ont explosé en mille morceaux. Les tentures se sont effondrées, mais l'alarme fonctionne encore.
Simona se souviendra encore longtemps de cette journée du 8 mai. Sa parfumerie, située Via del Triton, est l'une des rues les plus passantes du centre de Rome, à deux pas de la célèbre fontaine de Trevi, a été sévèrement endommagée par les flammes. En ce mardi ensoleillé, ce n'est pas un banal incendie qui a touché son magasin, mais bien l'explosion d'un bus de la ligne 63.
J'ai vu le bus arrêter, la fumée qui commençait à sortir, le chauffeur est descendu et sous le bus on voyait des flammes. J'ai pu sortir juste à temps du magasin, mais vous imaginez ce qui aurait pu m'arriver? Le chauffeur, lui, a été courageux car il a vite fait descendre tous les passagers.
Certains ont cru à un attentat tant les images du bus dévoré par les flammes étaient impressionnantes. Il s'agit en fait d'une triste habitude à Rome. Depuis le début de l'année, c'est le 10e bus qui a brûlé, un tous les 15 jours dans la capitale italienne. En cause, le manque de maintenance pour les véhicules qui ont 13 ans d'âge en moyenne, soit l'un des plus vieux parcs en Europe. Le 24 mai, l'émission Piazza Pulita, sorte d'envoyé spécial italien, diffusait un documentaire accablant faisant témoigner anonymement des mécaniciens de l'attaque, la société de transport public de Rome.
On n'a pas assez d'outils, s'il manque des pièces que nous n'avons pas, on doit se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. On nous dit, tu démontes ça et ça, et des deux morceaux, tu n'en fais qu'un seul. Souvent aussi, on doit réutiliser de l'huile de moteur usagée. On la vidange dans une bassine et on la remet dans le bus.
Chaque jour, 300 des 1300 bus romains sont forcés de rester au garage en raison de problèmes techniques. Depuis des années, l'attaque concentre la colère des Romains. Effectif pléthorique avec 13 000 employés, clientélisme, grèves à répétition, l'entreprise est un navire à la dérive. Quatre dirigeants s'y sont succédés en moins de deux ans. Face à l'avalanche de critiques, la municipalité se défend, accusant la mauvaise gestion de ses prédécesseurs. Virginia Raggi, la maire 5 étoiles de Rome.
Quand nous sommes arrivés il y a deux ans, vous le savez très bien, nous avons trouvé un déficit d'1,3 milliard d'euros chez ATAC. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par l'assainir. Et depuis, on a garanti le service public en évitant qu'ATAC soit en faillite.
Service public garanti, ce n'est pas l'avis des Romains, loin de là. Dans une ville qui ne compte que 55 km de métro contre 220 à Paris, les habitants de Rome privilégient les bus qui rallient les périphéries à la ville. À condition que le service soit assuré, Daniele, lui, attend déjà son bus depuis un quart d'heure à quelques mètres de la Via del Triton.
Aujourd'hui à Rome, vous savez, la vie de ceux qui utilisent les transports de l'attaque est devenue un enfer. Moi, je paye un abonnement mensuel et si cela devait augmenter, j'aimerais bien payer pour un service qui fonctionne vraiment.
Une association de consommateurs, Altro Consumo, vient de lancer une class action contre l'attaque. Au total, 250 000 habitants devraient recevoir une lettre dans laquelle est demandé à l'entreprise le remboursement de 50% de l'abonnement au transport en commun pour ces trois dernières années. L'attaque doit en attendant faire des économies. Le tribunal de commerce de Rome exige la réduction de 1300 postes d'ici un an. Les Romains, eux, s'exprimeront le 11 novembre prochain par référendum. Enjeu, l'ouverture à la concurrence dans les transports, ce qui sonnerait probablement le glas de l'entreprise publique.
En Roumanie, c'est le sort de la chef du parquet anticorruption, Laura Codruta Kövess, qui se joue actuellement. Le président, Klaus Iohannis, va-t-il révoquer celle qui incarne la lutte contre la corruption dans le pays? Pour en parler avec nous, Benjamin Ribou à Bucarest. Alors, le président semble personnellement opposé à une révocation de Laura Codruta Kövess, mais la Cour constitutionnelle roumaine semble désormais l'y obliger.
Le président de centre droit, Klaus Iohannis, a toujours soutenu Laura Codruta Kövess, malgré la pression du gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis un an et demi, nommé en 2013 par l'ancien président Traian Băsescu, puis confirmé par Klaus Iohannis en 2016. La chef de la Direction nationale anticorruption, la DNA, est également soutenue par la communauté internationale et par Bruxelles, véritable symbole de la lutte contre la corruption en Roumanie. Elle dispose, il est vrai, d'un bilan très positif. Elle a fait condamner de nombreux élus ces dernières années, s'attirant au passage les foudres de la majorité social-démocrate conduite par Liviu Dragnea. Mais l'étau se resserre autour de la chef de la DNA. La Cour constitutionnelle a appelé fin mai le président à lever le veto qu'il a mis à sa révocation. Pour la plus haute cour du pays, le chef de l'État n'a pas de pouvoir discrétionnaire dans ce domaine et doit par conséquent émettre le décret de révocation comme l'exige le ministère de la Justice.
Et cette décision, Benjamin, représente une victoire pour le gouvernement social-démocrate.
Oui, plus que ça, c'est à n'en pas douter un véritable tournant. Jusqu'à présent, le président Iohannis s'abritait derrière le soutien du Conseil supérieur de la magistrature, mais ce n'était là qu'un avis consultatif et la décision de la Cour constitutionnelle l'accule plus que jamais. Depuis, il a fait plusieurs sorties officielles au cours desquelles il a consciencieusement évité le sujet. C'est une lutte à fleurer, à peine mouchetée, que se mènent la procureure en chef et le Parti social-démocrate. La procédure contre Madame DNA est lancée en février et pour cause, elle accuse depuis plusieurs mois le gouvernement de porter atteinte à l'indépendance du parquet. Rien que pour l'année 2017, les procureurs de la DNA ont traité plus de 3800 dossiers et placé sous séquestre des biens d'une valeur supérieure à 200 millions d'euros. Environ 1000 inculpés ont été traduits en justice grâce à son action. Un tiers d'entre eux ayant des hautes fonctions, dont 3 ministres, 5 députés, un sénateur et 2 secrétaires d'État.
Alors, en revanche, ces évictions ne réjouiraient pas les Roumains. On se rappelle qu'ils avaient manifesté pour le bon fonctionnement de la justice l'année dernière et ce week-end encore.
Oui, depuis l'annonce de la Cour constitutionnelle, plusieurs manifestations pour la soutenir ont eu lieu à Bucarest et en province. La procédure de révocation de Laura Codruta Kövess marque en réalité l'apogée des tensions entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire, tensions entretenues par l'intention de l'exécutif de modifier les lois de la justice. Les gens qui ont manifesté en faveur d'une justice indépendante durant l'hiver 2017 ont conscience que se joue là peut-être l'avenir de leur pays, mais de l'autre côté, le Parti social-démocrate, le PCD, passe lui aussi à l'attaque. Samedi, il a voulu marquer le coup dans la capitale Bucarest, d'ordinaire théâtre des manifestations anti-gouvernement, venues des quatre coins du pays dans des bus affrétés par le parti. Plus de 100 000 personnes ont manifesté contre ce que le leader PCD, Liviu Dragnea, appelle les abus de la justice. Ce dernier a parlé de pouvoir judiciaire excessif, lui qui a été condamné en 2016 à 2 ans de prison avec sursis pour fraude électorale et est aussi dans l'attente d'un verdict dans un autre procès.
Benjamin Ribou à Bucarest. She walks around with a big balloon. And if you try to take it from her, your end will come too soon. Les ballons de baudruche, c'est joli, ça donne un petit air de fête, surtout quand ils sont gonflés à l'hélium et qu'on les relâche par milliers dans l'atmosphère. Mais tout le monde n'est pas à la fête avec le plastique qui finit dans la nature. Certains s'en plaignent. Aux Pays-Bas, les ballons pourraient même être carrément interdits, Antoine Moutot.
Fini les lâchers de ballons intempestifs pour faire la fête ou célébrer un anniversaire. Les villes néerlandaises sont de plus en plus nombreuses à les interdire. Dernière en date, Heerenveen, dans la Frise, au nord du pays, 25 des 29 conseillers municipaux ont voté pour. Ameland et Ter Schelling, deux îles de la Frise, avaient fait de même quelques mois auparavant. Les municipalités entendent ainsi lutter à leur niveau contre la dite soupe de plastique qui envahit mers et océans. Et quand elles ne les interdisent pas complètement, de très nombreuses villes se sont au moins engagées à décourager les lâchers de ballons. Il y a quelques semaines, à Heltrop Mierlo, près d'Eindhoven, le parti écologiste GroenLinks s'en est d'ailleurs vertement pris à une adjointe au maire de la commune. Elle a assisté à l'inauguration d'un nouveau terrain de volley pendant laquelle des enfants ont lâché des dizaines de ballons dans le ciel. Les écologistes jugent qu'elle aurait dû boycotter la cérémonie, car peu de temps avant, la mairie avait promis d'inciter ses administrés à ne plus libérer de ballons de baudruche. Désormais, les sociaux-démocrates du Partei van de Arbeid veulent aller plus loin. Il y a encore pas très longtemps, les ballons étaient légion lors de certains événements politiques. Mais ça, c'est du passé. Ils réclament désormais une interdiction nationale des lâchers de ballons. Une revendication qui est loin de plaire à tout le monde. Certains Néerlandais y voient une privation de leur liberté, parfois aussi la fin d'une tradition. Lâcher des ballons est très populaire, notamment lors d'anniversaires ou de la fête du roi. Cette année, une interdiction des ballons, l'an prochain, une interdiction du plaisir, avait récemment ironisé Bernadette Kaiser, une chroniqueuse du quotidien Algemeen Dagblad, farouchement opposée à cette interdiction.
En Bosnie, c'est l'un des plus anciens cinémas de Sarajevo qui vient de rouvrir ses portes. L'Impérial avait dû fermer il y a 10 ans, mais la salle revit aujourd'hui grâce à l'engagement d'une équipe de passionnés. Un cinéma qui sait aussi se faire mousser, Simon Rico.
Il y a 10 ans, l'Impérial baissait le rideau plombé par les dettes et le manque de spectateurs. Face à la concurrence de la télévision et surtout du piratage internet, la plus ancienne salle de Sarajevo n'avait pas pu résister, comme la plupart des autres cinémas de Bosnie-Herzégovine. Mais aujourd'hui, l'Impérial retrouve une seconde jeunesse. Une centaine d'enthousiastes s'est réunie autour des jeunes patrons de The Brew & Co., la nouvelle brasserie artisanale de Sarajevo, pour rénover ce haut lieu de la cinéphilie bosnienne. Grâce à une campagne de financement participatif, ces passionnés ont pu acheter le matériel nécessaire pour reprendre les projections. Fraîchement inaugurée, la salle porte désormais le nom de BIS pour Brew Imperial Society. Comme l'expliquent les initiateurs du projet, le brew, le brassage en anglais, représente leur activité principale et les bières locales seront d'ailleurs le produit phare de l'établissement. Quant à l'acronyme BIS, il colle bien avec la renaissance de ce lieu emblématique, désormais transformé en centre culturel moderne, à la programmation éclectique, avec concerts, projections, spectacles et programmes éducatifs. Nous voulons en faire un lieu où se réunissent toutes les générations, en rendant hommage au passé et en agissant pour un avenir meilleur, explique Harun Omic, l'un des patrons de The Brew & Co. Le BIS peut d'ores et déjà se targuer du soutien de la communauté locale et de plusieurs personnalités culturelles de Bosnie-Herzégovine. Tous saluent le sauvetage du vénérable Impérial, inauguré en 1913 sous le nom de Romania et classé aujourd'hui monument historique. Cet établissement, situé au cœur de Sarajevo, a été pendant de longues années un centre de la vie culturelle de la ville et le point de rendez-vous de plusieurs générations de cinéphiles. C'est aussi sur sa scène que John Baez était venu chanter en 1993 pour soutenir la ville durant le siège meurtrier.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde Accent d'Europe. Demain, on se retrouve à l'horaire habituel, 17h40 temps universel, et tout de suite sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio.